Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, tout pile. Excellent réveil, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Comment enrayer le phénomène de violence chez les jeunes après toutes les affaires de la semaine dernière? Le gouvernement prépare un projet de loi pour durcir les sanctions, notamment contre les parents des enfants délinquants. Comment faire des économies? Autre question ce matin, il est question, vous l'entendrez, de supprimer l'aide à l'embauche de 6 000 euros pour les alternants en contrat pro. Et puis les sports, allumage ce matin de la flamme olympique en Grèce. Emmanuel Macron, vous l'entendrez sur RMC, qui met la pression sur les clubs de foot avant les JO. Et Paris, condamné à la remontada ce soir à Barcelone en Ligue des Champions.
Et puis notez juste après ce journal qu'on reviendra sur ces soignantes victimes de comportements sexistes de la part de leurs collègues masculins. Est-ce que tu es nu sur ta blouse? Est-ce que tu es célib? Un MeToo qui déferle sur l'hôpital. On en parle donc à la fin de ce journal avec la médecin Coraline Ingret. Le gouvernement veut durcir les sanctions contre les parents d'enfants délinquants.
Oui, après les agressions de Montpellier, Viry-Châtillon, Romans-sur-Isère aussi, c'était la semaine dernière, après les émeutes également de l'été dernier, le gouvernement travaille donc sur un projet de loi pour renforcer les sanctions contre les mineurs délinquants, mais aussi eh bien, contre leurs parents. Selon les informations du journal L'Opinion, que le service politique de RMC est en mesure de confirmer, Cyprien Pézeril.
Pendant les émeutes l'été dernier, Éric Dupond-Moretti lançait aux parents, je le cite, « Tenez vos gosses ». Aujourd'hui, dans le texte qu'il peaufine, le ministre de la Justice entend durcir les sanctions contre des pères et des mères qui se soustraient à leurs obligations. En clair, si leur enfant commet plusieurs crimes ou délits, alors pour ses parents, ce serait 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende contre 2 ans et 30 000 euros jusqu'à présent. À cela pourront s'ajouter, toujours pour les parents, des travaux d'intérêt général. Leur absence aux audiences judiciaires serait aussi sanctionnée. Le gouvernement, qui envisage par ailleurs, dans le cadre de leur contrôle judiciaire, d'accueillir des mineurs délinquants la nuit dans des établissements dédiés. Enfin, le placement en internat, comme le disait Gabriel Attal cet hiver, de jeunes sur la mauvaise pente est toujours sur la table.
Et vous le savez, le gouvernement est en pleine chasse aux économies et veut supprimer l'aide à l'embauche pour les 100 000 alternants en contrat pro. On parle là d'une aide de 6 000 euros qui a été mise en place en 2020 pendant le Covid pour inciter les entreprises à embaucher. 4 ans plus tard, eh bien, un décret est en préparation pour la supprimer là, dès le 1er mai et donc faire des économies, ce qui est incompréhensible, disent déjà les employeurs contactés par Nicolas Trénaud.
Aujourd'hui, l'entreprise de travaux publics de Seine-Saint-Denis, Dubrac TP, compte 15 alternants dits contrats pro. Le patron Francis Dubrac les recrute pour soulager ses équipes, fortement incitées par cette prime, désormais en péril.
C'est pas une lourde charge dans l'entreprise compte tenu des aides. Ça me tient à cœur et puis il y a des pépites qui émergent. Maintenant, s'il n'y a plus d'aide, on va y réfléchir à deux fois.
Car sans ce coup de pouce, estimé pour cette société à près de 50 000 euros par an, ce patron ne voit qu'une seule solution.
On va moins embaucher de jeunes. On va faire attention maintenant à n'en prendre que uniquement pour remplacer le turnover de l'entreprise, donc les bras m'en tombent.
Et cela pourrait aussi porter préjudice aux jeunes. Les opportunités seront plus rares, souligne François Asselin, le président de la Confédération des PME, qui dénonce un projet brutal.
C'est plutôt une mauvaise surprise et c'est pas un bon signal. On est tout à fait conscient des problèmes importants des finances publiques, mais cibler l'alternance, c'est peut-être pas le bon message. Le voir royal pour accrocher les wagons du monde professionnel, revenir par une telle décision sur ce succès, ça peut être problématique, oui.
Ce président de la puissante organisation patronale rencontre ce soir le Premier ministre et compte lui demander de ne pas publier le décret.
La forte mortalité routière au mois de mars en France, 254 personnes tuées sur les routes dans le pays, c'est un bond de 31% sur un an, mais 2023, en mars 2023, avait été particulièrement bas, fait remarquer la sécurité routière. À 7h03 sur RMC, deux images marquantes aux États-Unis. D'abord celle de Donald Trump, elle est historique au tribunal à New York. Donald Trump jugé pour avoir acheté le silence d'une actrice porno, c'était en 2016, à 6 mois de la présidentielle, ce procès pour l'ancien président américain qui dénonce une persécution politique et dit qu'il a un vrai problème avec le juge président, son procès. L'image de la soirée, toujours aux États-Unis, c'est le grand pont, le Golden Gate à San Francisco, bloqué par une manifestation pro-palestinienne au moment où le monde entier redoute une escalade et une extension du conflit au Moyen-Orient après l'attaque le week-end dernier de l'Iran visant Israël. Tiens, le porte-parole de l'armée israélienne ces dernières heures a assuré qu'il y aurait une riposte.
Ce lancement de tant de missiles de croisière et de drones dans le territoire d'Israël sera accueilli par une riposte.
Emmanuel Macron a pris tout le monde de court hein, hier matin sur RMC en annonçant des plans B, des plans C au Trocadéro et au Stade de France pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en cas de menace terroriste. Ça va à contre-courant hein, de tout ce qu'on a pu entendre jusque-là. Et d'ailleurs, les organisateurs insistent, Romain Cluzel, ça se passera bien sur la scène.
On peut jouer à se faire peur, mais la cérémonie aura bien lieu sur la scène. Message répété toute la journée par l'exécutif et les organisateurs, un peu pris de court par les annonces détaillées du président. Une cérémonie limitée et statique au Trocadéro est bien étudiée en cas de menace trop importante, mais le Stade de France n'était jusqu'ici jamais évoqué. En réalité, il s'agit d'une solution extrême en cas de scénario catastrophe, selon plusieurs sources, avec une cérémonie réduite au strict minimum, sans spectacle, dans un lieu fermé, et le Stade de France serait une hypothèse parmi d'autres lieux olympiques. Un scénario qui a 99,9% de chances de ne pas exister selon une source gouvernementale. Plusieurs interlocuteurs en sont persuadés. Emmanuel Macron a joué la carte de la transparence totale pour tenter de rassurer la population, quitte à relancer la perspective de renoncer à la cérémonie prévue.
Et alors concernant les Jeux Olympiques, c'est ce matin que sera allumée la flamme olympique à Olympie, en Grèce, dans le berceau de l'olympisme. Et en attendant l'arrivée de la flamme olympique début mai à Marseille, bien Emmanuel Macron met la pression sur les clubs de foot, notamment le Real Madrid, et très certainement le prochain club de Kylian Mbappé, que le président aimerait bien voir au JO. Écoutez-le, Emmanuel Macron, c'était après son interview hier matin sur RMC. Il est au micro d'Apolline et de notre directeur général, Karim Nedjari.
On va tout faire pour. Moi, j'ai confiance dans les clubs français et européens, si je puis ouais, dire. Vous savez ce que je veux dire On a l'euro, c'est ça le problème. Je pense qu'il faut que les clubs jouent le jeu pour qu'on ait un grand spectacle. C'est une de mes craintes, je suis d'accord avec vous.
Le Real Madrid aussi ?
Exactement, quand je parlais des clubs européens, c'était ça. Non, après, il faut que les joueurs se le mettent bien dans leur plan de charge et d'entraînement aussi. Parce qu'on a l'euro, j'espère qu'on va jouer jusqu'au 14 juillet. Et je le pense, je le veux. Et après, ils ont des reprises précoces pour beaucoup, donc il faut qu'on
libère un peu. Vous avez parlé
de Kylian Mbappé ? J'en ai pas parlé encore avec lui, mais j'espère que son club surtout lui laissera.
Ah tiens, Kylian Mbappé, attendu au tournant ce soir à 21h sur RMC pour le quart de finale retour de Ligue des Champions de Paris à Barcelone après la défaite 3-2, c'était la semaine dernière à l'aller. Les Parisiens de Luis Enrique sont condamnés à la remontada.
Nous sommes prêts. Je crois qu'historiquement, le PSG n'a jamais été capable de se qualifier après avoir perdu le match aller. Eh bien là, on va le faire.
Il est confiant, Luis Enrique. Arthur Perrault, vous êtes déjà en direct pour RMC de Barcelone ce matin. On l'entend, il y a de l'optimisme chez les Parisiens.
Oui, tous les feux sont au vert pour les Parisiens avant d'affronter Barcelone. Aucun blessé en défense. Achraf Hakimi fait son retour de suspension. Le joueur marocain a beaucoup manqué au match aller. Bradley Barcola s'est lui remis de sa blessure avec l'équipe de France Espoir. Le PSG n'a qu'un petit but à rattraper au stade de Montjuïc dans la capitale catalane. Tout au long de la semaine, l'optimisme est resté de mise au centre d'entraînement. Bien sûr que l'on y croit et qu'il y a la place. On va se qualifier pour les demi-finales, commente un proche du vestiaire. Une ambiance qui contraste avec la pression des années précédentes. En coulisses, l'entraîneur Luis Enrique répète depuis le tirage au sort que cette confrontation se jouera sur le match retour. Mais la mission n'a rien d'une tâche facile. Paris ne s'est jamais qualifié lors d'un tour à élimination directe de Coupe d'Europe après avoir perdu le match aller à domicile.
21h ce soir, hein, ce match sur RMC à la radio, RMC Sport 1 à la télé, soirée spéciale tout simplement hein, sur RMC, dès 18h jusqu'à 1h30 même du matin. Et alors il y a un club français qui a déjà réussi une remontada en Catalogne. C'est le FC Metz, c'était en 1984, 16e de finale de la Coupe des Coupes, battu 4-2 à l'aller. Metz
et on va chercher l'espoir.
Et ouais, bah voilà, bah les Messins, ils avaient gagné 4-1 chez le Barça dans un stade qui était quasiment vide à l'époque, c'était le Barcelone.
Ça va mieux du coup
de Maradona.
Là, Charles, ça vous a
oui voilà, on sera Messin au PSG d'écrire son histoire ce soir.
Voilà.
Cet espoir.
Ah, j'y crois à fond. Oui, c'est vrai, vous allez me trouver
bah, comme Luis Enrique.
Non, c'est bien, oui. il faut de toute façon, il faut bien qu'il tienne toute la journée.
Oui.
Donc autant avoir un peu d'espoir.
Et on fait ça demain matin tous ensemble.
Oui, on verra ça.
7h08 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Remarques déplacées ou humiliantes, sexualisation à l'extrême, l'hôpital est en plein MeToo depuis qu'une médecin, Karine Lacombe, a accusé publiquement le célèbre urgentiste Patrick Peloux d'harcèlement sexuel. Depuis, la parole se libère. C'est ce que nous dira dans un instant la professeure Coraline Ingret. Elle est psychiatre au CHU de Nancy.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11 sur RMC.
Le témoin RMC.
Bonjour professeur Coraline Ingret, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, psychiatre au CHRU de Nancy. Vous êtes aussi vice-présidente de l'association Donner des ailes à la santé. Je précise évidemment que le L de donner des ailes s'écrit E-2-L-E-S. Vous êtes effectivement donc représentante aussi de ces femmes dans le monde de la santé. Depuis les accusations de votre collègue, la professeure Karine Lacombe, qui est infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qui a donc accusé de harcèlement sexuel le célèbre urgentiste Patrick Peloux. C'était dans la presse le 10 avril dernier. Les langues semblent se délier, de nombreux témoignages vous parviennent. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi, vous, à Nancy comme ailleurs ?
Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Et tout d'abord, un grand merci effectivement à Karine Lacombe et à l'ensemble des victimes qui osent libérer la parole. Dans notre association, effectivement, rien ne nous surprend. Ça fait 4 ans que l'on réalise des baromètres Ipsos qui mettent en avant des chiffres absolument incroyables. 8 femmes médecins sur 10 à l'hôpital a été victime de violences sexistes et sexuelles, dont une femme sur 3 qui décrit des gestes, des attouchements ou des agressions sexuelles.
Donc pas juste des mots, quoi, pas juste des expressions qui déjà seraient compliquées à gérer, encombrantes, épuisantes.
Exactement.
Vous-même.
Exactement. Dans le cadre des violences sexistes et sexuelles, on a un véritable violentomètre, hein, des propos sexistes jusqu'à l'agression sexuelle et au viol. Et évidemment, tout ça peut être extrêmement blessant, mais il y a un panel. Et on a régulièrement des femmes qui sont victimes d'attouchements et d'agressions.
Et ça n'a pas changé, ça. C'est-à-dire, les dernières années, il n'y a pas quelque chose qui s'est amélioré. Le fait que, justement, des femmes comme Karine Lacombe se retrouvent aussi à des postes parce que c'est toujours aussi la question du rapport au pouvoir. Est-ce que le fait que des femmes aient accédé quand même au haut de la pyramide, est-ce que ça n'a rien changé, en vrai ?
Alors, c'est très juste, hein, ce que vous dites. La question de la domination masculine et de la surreprésentation des hommes est toujours extrêmement liée à la question des violences sexistes et sexuelles. Et à l'hôpital, on le sait, on a un vrai retard par rapport à ça. Pour autant, les choses changent. Je dis probablement aussi que les choses ont pas mal changé depuis MeToo. Où il y a eu un changement de mentalité, une prise de conscience que certains comportements n'étaient absolument plus acceptables depuis quelques années. Pour autant, les mentalités ont du mal à changer du fait du contexte carabin, où il y a toujours eu énormément de sexualisation, d'humour grivois, la représentation de fresques dans les hôpitaux, un rapport à l'intimité, au corps très compliqué, avec le fameuse excuse de l'humour. Mmh. Non, mais on a besoin de décompresser, on côtoie la mort, et donc si on ne peut plus rigoler, ce qui explique la pérennisation de ces comportements, même s'ils sont en décroissance.
Professeur, justement, vous-même, vous le racontez, vous avez été victime de ce que vous appelez ce contexte carabin, mais qui a justifié des phrases, des remarques. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Comment vous avez réagi? Racontez-nous.
Alors, en fait, on a toutes, et de ma génération, été soumises...
Vous avez quel âge, pardon? Vous avez quel âge?
J'ai 40 ans.
Voilà, ce que vous dites, ma génération.
On a toutes été soumises à des réflexions autour de notre physique, des réflexions sur une bouche qui pourrait faire certaines choses, des réflexions sur nos tenues, des gestes déplacés. C'est quelque chose qui était extrêmement fréquent, d'une hypersexualisation, de demander votre statut marital, etc. à l'hôpital. Ça, c'est des choses très présentes. Et puis, on a évidemment, et moi, je m'occupe aussi de cellules de signalement, des faits extrêmement graves qui nous sont rapportés. Et l'important est d'essayer de sortir de ce phénomène en changeant profondément les mentalités. Et il y a 2 axes. Il y a la formation, l'éducation, la sensibilisation. Actuellement, dans les facultés de médecine, on sensibilise au plus jeune âge les étudiants en médecine pour leur expliquer à quoi ils pourraient être confrontés et ce qu'ils ne doivent pas accepter et comment signaler. Et aussi pour éviter la perpétuation de ces comportements. Et l'autre grand axe, c'est qu'on ne peut pas demander aux victimes de libérer la parole tant qu'on restera dans une forme d'impunité pour beaucoup de médecins auteurs. Faire les enquêtes est extrêmement compliqué. Le parcours pour faire l'enquête, pour la plainte...
Aussi parce qu'il y a une forme d'intimidation, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous-même, vous dites que vous avez, comme vos collègues, subi cet état d'esprit, cette lourdeur au minimum, qui est épuisante, surtout quand on est au boulot. Mais est-ce que vous aviez les moyens de répondre? Est-ce que vous aviez l'énergie, l'à-propos, voilà. Comment on fait pour réagir sur le moment?
Eh bien, en fait, c'est très dur parce que c'est tellement minimisé et banalisé qu'on a du mal à se dire, bah, effectivement, ce n'est pas normal, j'ai le droit de réagir. Quand on réagit, on peut nous dire, non mais attends, t'exagères, ça va, hein, c'est juste pour rire, c'est juste une blague ou c'était un compliment. Donc en fait, ça décrédibilise la parole de la victime. Et ça, effectivement, c'est quelque chose de compliqué. Et puis, il y a la peur pour les carrières, la peur des conséquences. Et aujourd'hui encore, une victime de violence sexuelle qui vient dénoncer en particulier le comportement d'un médecin, mais même s'il n'y a pas que des médecins qui sont agresseurs sexuels à l'hôpital, loin de là, eh ben, elle a peur pour sa carrière, elle a peur de ne pas avoir de poste, d'avoir du mal dans sa spécialité, d'avoir du mal à évoluer. Et on a encore des conséquences directes pour les victimes, malgré des politiques de tolérance zéro et des vrais engagements. C'est encore très compliqué pour les victimes.
Merci beaucoup, merci de votre témoignage ce matin. Coraline Ingret, donc psychiatre au CHU de Nancy et donc présidente de cette association Donner des ailes à la santé. Merci de votre témoignage. Ce MeToo donc, qui se libère en quelque sorte dans le monde de l'hôpital. Il est 7h17.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre, les 6000 euros pour embaucher un jeune en alternance, et ben c'est fini. Cette aide mise en place en 2020 sera supprimée dans 15 jours. Une mauvaise nouvelle pour les entreprises, mais aussi pour les jeunes. C'est l'avis de beaucoup de patrons. Leur représentant, Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME, sera dans ce studio avec nous. Avant cela, il y aura le 7h20 d'Apolline Matin avec Solène Leroux, Victor Joannin et Arnaud Demanche.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Les coulisses de l'actu, et ce matin, c'est avec vous, Martin Cadoret. Bonjour Martin.
Bonjour Apolline.
Dans l'interview qu'Emmanuel Macron m'a accordée hier, le président de la République assurait qu'il y aurait assez d'agents de sécurité privés pour les JO. Martin, est-ce que c'est vrai ça ?
De son côté, France Travail nous confirme avoir déjà formé 20 000 personnes depuis le début de sa campagne de recrutement en septembre 2022. 16 000, en majorité des demandeurs d'emploi, ont choisi la formation agent de prévention et de sécurité. Et 4 000, plutôt des étudiants, ont effectué la formation grands événements en 3 semaines, spécifiquement mise en place pour ces JO. Sur les 3 derniers mois, entre 5 et 7 000 personnes doivent être formées en plus. Au total, selon ses estimations, France Travail aura formé 27 000 personnes en près de 2 ans. Sauf que c'est un chiffre en trompe-l'œil, analyse un syndicat patronal du secteur. Une partie des chômeurs formés n'a pas attendu le début de l'événement pour trouver un emploi stable dans le secteur sur d'autres missions que les JO. Et puis même si des contrats de travail en prévision de l'événement ont déjà été signés, la moitié ne le sera que cet été. Et là, un syndicaliste du secteur s'interroge. Je ne suis pas sûr que tout le monde signe en voyant son planning, qui risque d'être très discontinu sur ce type d'événement. Et puis enfin, les entreprises attributaires des marchés publics sont pour certaines des petites structures. Un patron s'interroge sur la capacité d'une entreprise qui tourne habituellement avec 100 personnes à en gérer 500 pour les JO. Tout n'est pas noir pour autant. Réussir à aligner 18 000 personnes par jour est un objectif encore atteignable, veut croire le président de la Fédération de la Sécurité Privée, qui imagine lancer une grande campagne de communication pour recruter encore du monde.
Un indiscret signé Martin Cadoret. Merci Martin.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et c'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec le trio du jour. Solène Leroux pour vous aider.
Bonjour.
Victor Joannin pour l'économie. Arnaud Demanche.
Bonjour.
Pour nous détendre.
Pour le LOL.
Pour le Maxi LOL. Solène, ce matin, vous venez en aide à Rachid. C'est un fils de Harki.
Ouais, Rachid qui, comme tous les Harki et leurs descendants, a droit à une indemnisation. Les Harki ont travaillé pour l'armée française pendant la guerre d'Algérie, considérés comme des traîtres. Certains ont été rapatriés en France, parqués dans des camps. On estime qu'ils étaient 90 000. Et c'est pour réparer cette injustice que l'indemnisation a été votée par la France en 2022. Mais cet argent, Rachid l'attend toujours.
Quand je leur demande pour quelle raison, ils me répondent en règle déjà en priorité la première génération. Ben, je suis d'accord. Mais pourquoi mes sœurs et mes frères, ils ont touché et que moi, ça n'a pas été réglé?
Ça paraît complètement absurde. J'imagine que cette somme lui serait bien utile.
Ah oui, Rachid a deux grands-fils. Il aimerait pouvoir les aider au mieux pour le permis, les études. Mais surtout, c'est une réparation, un moyen de reconnaître l'humiliation que les Harki ont vécue pendant de nombreuses années dans ces camps. Même pour la Cour européenne des droits de l'homme, qui a rendu un avis sur la question il y a 2 semaines, les montants restent insuffisants au regard des préjudices subis. Rachid a une estimation de la somme.
C'est entre 16 000 et 18 000 euros. Moi, j'aimerais que ce soit réglé, quoi. Après, ça a toujours été comme ça. Les Harkis, c'est une épine dans le pied du gouvernement.
Est-ce que vous avez réussi à l'aider ?
Nous avons contacté l'Office national des combattants et des victimes de guerre, l'ONAC, c'est eux qui gèrent les dossiers d'indemnisation des harkis. On nous explique que les délais peuvent être longs face à l'afflux de demandes depuis la loi il y a 2 ans. 15 000 dossiers ont déjà été traités, il en reste 19 000. Et c'est bientôt le tour de Rachid, c'est la bonne nouvelle du jour. Une source proche du dossier nous l'a confirmé tard hier soir. Sa demande va passer en commission en mai, dans un tout petit mois. On veillera bien sûr à ce que Rachid reçoive bien son dû.
Et vous nous donnerez des nouvelles bien sûr quand ce sera fait. Vous connaissez le chemin. RMC avec vous, @rmc.fr. L'écho ce matin avec vous Victor Joannin. Victor, cet après-midi on va suivre une assemblée générale qui s'annonce houleuse. C'est celle du constructeur automobile Stellantis, en cause le salaire énorme de son patron qui fait polémique.
Oui, 36 millions d'euros au titre de l'année 2023. Alors, je vous épargne les traditionnels comparatifs avec le SMIC. Bon, je vous le donne quand même. C'est plus de 2200 SMIC annuel, 36 millions d'euros. Et alors, quand on ouvre le capot, c'est intéressant de voir ce qui se cache derrière tout ça. Sur les 36 millions, on a 2 millions de salaires fixes seulement, entre guillemets, 10 millions de primes pour récompenser la transformation de Stellantis à une fusion des groupes Chrysler et PSA, 20 millions de bonus liés aux performances du groupe, et puis, il y en a un petit peu plus, je vous le mets quand même, 2 millions pour la future retraite du dirigeant.
C'est la petite souris sur le gâteau,
voilà,
ou quoi ?
Voilà, pas grand-chose, on n'est pas 2 millions près, donc on a bien compris, une grande partie c'est lié à la performance du groupe, et sur ça, il n'y a pas de débat, Stellantis va bien, va très bien, 19 milliards d'euros de bénéfices, et d'ailleurs, la direction qui précise que les salariés français ex-Peugeot et Citroën vont toucher entre 4 000 et 6 000 euros d'intéressement cette année. À chacun, oui.
Et pourtant, la rémunération de Carlos Tavares a quand même du mal à passer.
Oui, trois cabinets de conseil recommandent aux actionnaires de voter contre cette rémunération. Elle est beaucoup plus élevée que ce qui se fait dans le secteur automobile européen. C'est presque une rémunération à l'américaine. Là-bas, c'est beaucoup plus élevé. C'est justement comme ça que son montant est justifié par la direction, parce que Stellantis réalise la moitié de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Mais pour ces cabinets de conseil, ça menace la cohésion sociale du groupe. D'ailleurs, les syndicats sont furieux. Hein. Ce salaire, ça représente en une journée ce que touche un salarié en un an. Mais même si les actionnaires de Stellantis décident de voter contre, ça passera quand même, puisque aux Pays-Bas, là où est enregistré le constructeur, le vote n'est que consultatif, contrairement à ce qui se fait en France d'ailleurs.
À suivre donc celui qui se dit le Mbappé de l'automobile.
Ah bah il a des bons résultats, ça c'est sûr.
Et Arnaud est avec nous ce matin. Arnaud, je reçois deux invités à 8h30, retour sur le terrain, puisque je serai avec une juge, Béatrice Brugère, et avec un maire, Jean-Marie Villain, qui est le maire de Viry-Châtillon. C'est la ville où a été tué le jeune Chamsidine. On s'en souvient bien sûr, tué parce qu'il échangeait avec une jeune fille.
Oui, une absurdité qui porte le nom de crime d'honneur, alors que comme le dit Jean-Marie Villain, faut vraiment pas avoir d'honneur pour faire des trucs pareils. Alors historiquement en France, on a eu des gros soucis avec les crimes d'honneur entre jeunes, entre le 15e et le 19e siècle, c'était les fameux duels, vous savez, l'époque des mousquetaires. Et c'était tellement n'importe quoi que le gouvernement a dû les interdire dès 1627. À l'époque, on s'embrochait pour un oui, pour un non. C'était « Vous avez osé ramasser le mouchoir de ma femme, je vous provoque en duel. Mes témoins se présenteront chez vous à l'aube. » Et il fallait te lever à 4h du mat pour aller faire un duel à mort avec un connard que tu connais même pas, parce que cette gourde, elle est pas capable de ramasser son mouchoir elle-même. Alors déjà, se lever à 4h du matin pour partir en vacances, c'est relou, alors pour te faire transpercer. Alors d'ailleurs, le saviez-vous ? C'est un truc étonnant. Le scandale des tueries par duel fut dénoncé à la cour par un célèbre poète qui s'appelait François de Malherbe.
Mais c'est ce que j'allais dire. Et oui, parce que le malheureux, il a perdu son fils,
lors d'un
ancêtres,
duel.
Qui est mort en duel.
C'est un de vos ancêtres, sans rigoler.
Bah oui.
François de Malherbe. Ah ben je savais pas. On en apprend
une
leçon de
l'histoire.
J'ai fait la recherche sur
Wikipédia. C'est marrant, vous avez parlé, on a le même nom. C'est marrant.
Il y avait un indice pourtant.
C'était pourtant écrit dessus, comme alors, le mort salut.
Eh oui, mais je savais pas que c'était votre famille. Alors, vous savez ce que c'était le dernier duel en France ? 1957, Gaston Defferre, député socialiste et maire de Marseille, face au gaulliste René Ribière. En fait, ça bardait à l'Assemblée nationale. Gaston Defferre avait balancé « Taisez-vous, abruti !» à René Ribière.
Ah bah c'est sûr,
René
ça, oui.
N'a pas kiffé.
Pas possible.
Il l'a provoqué en duel à l'épée et Gaston Defferre a répondu « D'accord, et je vous couperai les testicules pour vous rendre inapte à votre mariage » qui avait lieu quelques jours plus tard. Ambiance. Ouais. Alors finalement, ils se sont vus 4 minutes en toute illégalité. À la première écorchure, ils ont arrêté. Et fin de l'histoire. Merci pour ce moment historique. Merci Arnaud Demanche et à tout à l'heure avec Béatrice Bouffère.
Arnaud, je ne savais pas que vous preniez la suite donc de Stéphane Bern. Hein, c'est comme ça que ça se passe.
Ben oui, je peux prendre le relais.
Secret d'histoire.
Secret d'histoire revient à 8h20.
À tout à l'heure, Arnaud. Il est 7h28.
RMC
Apolline Matin.
Et le journal, c'est avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 254 personnes tuées sur les routes le mois dernier. C'est 31% de plus par rapport à l'an dernier. Et c'est spectaculaire chez les 18-24 ans. Les jeunes délinquants sur les routes et dans la rue. Le gouvernement veut mieux les sanctionner en ciblant leurs parents. Un projet de loi est en préparation. Et puis le PSG va-t-il renverser la situation ce soir face au Barça après la défaite 3-2 à l'aller? Les Parisiens vont tenter de décrocher leur ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
Que se passe-t-il sur les routes de France ?
La mortalité est repartie à la hausse le mois dernier, plus 31% par rapport à mars 2023, selon les derniers chiffres de la sécurité routière. Des accidents mortels quasiment multipliés par deux chez les jeunes de 18 à 24 ans, comme ce week-end encore dans le Tarn. Jean-Wilfried Forquès.
Une collision violente aux portes de Saint-Sulpice-la-Pointe en pleine nuit sur une départementale bordée de platanes. Un jeune de 22 ans tué sur le coup. C'est un drame pour les habitants de cette commune tarnaise.
C'est un gamin du village, c'est triste. Quand on fait la fête un peu le soir, eh bien, c'est malheureux, mais on en crève, quoi.
Et pour ce père de famille, cet accident mortel n'est pas très rassurant.
J'ai un enfant qui vient d'avoir le permis il n'y a même pas 6 mois et ça m'inquiète, cela. Chaque fois que je lui en parle, fais attention. Malgré cela, il y a quand même des accidents.
Selon Anne Navot, de l'association Prévention Routière, cette augmentation des accidents est liée à la vitesse et elle reproche au gouvernement d'avoir supprimé le retrait d'un point pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.
On voit bien qu'il y a une corrélation entre ce qui a été annoncé et le sentiment peut-être que finalement la vitesse, c'est pas si grave que ça. Les jeunes payent un lourd tribut sur la route, donc ça veut dire qu'on a une problématique sur les 18-24.
C'est pour cela que l'association est vivement opposée à l'obtention du permis de conduire dès l'âge de 17 ans.
7h32 sur RMC, punir les enfants à travers leurs parents, c'est l'une des réponses que le gouvernement veut apporter aux émeutes qui ont secoué la France l'été dernier. Un débat relancé par les affaires successives de violences entre jeunes ces dernières semaines. Un projet de loi est en cours de préparation et selon les informations du journal L'Opinion confirmées par RMC, il est notamment question d'alourdir les peines de prison pour les parents d'enfants délinquants récidivistes. Mais alors est-ce que tout cela suffira à rétablir l'ordre dans les quartiers sensibles? Les habitants du Tonkin à Villeurbanne n'ont pas l'air convaincus, Vincent Chevalier.
Le Tonkin, quartier sensible de la ville, est parmi les auteurs de délits, parfois des gamins.
Des jeunes de 12 ans, 13 ans qui traînent avec les vendeurs de trucs.
Pour Amel, si les parents sont responsables, ils ne peuvent pas être coupables. Elle prône plutôt le dialogue.
Aller dans les maisons des jeunes, envoyer quelqu'un de professionnel pour parler avec eux et tout.
Pour Aïcha, les parents jouent un rôle fondamental, mais certains sont dépassés, tous ne doivent pas être pénalisés.
Vous allez voir de toute façon la différence entre des parents qui sont là pour leur enfant et des parents qui laissent aller.
D'autres sont plus directs, pas de pitié, dit Josiane.
Je serais pour qu'on les éduque un peu et qu'on les sanctionne.
Selon elle, les sanctions financières seraient les plus efficaces.
Toucher à l'argent, oui, parce que c'est facile. Hein. On ouvre la poche, ça tombe dedans et les enfants sont dehors, des fois livrés à eux-mêmes.
Restaurer la parentalité, pourquoi pas? Mais les outils existent déjà, d'après Ludovic Fria, président de l'Union syndicale des magistrats.
Il suffit qu'on se donne les moyens, en termes notamment de personnel, et quand je dis personnel, je pense en termes d'éducateurs, mais également de juges et de greffiers.
Le projet de loi devrait être débattu au Parlement avant l'été.
Israël promet une riposte à l'Iran sans en préciser la nature ni l'ampleur après l'attaque historique de Téhéran sur l'État hébreu ce week-end. Et ce malgré les appels au calme répétés par toute la communauté internationale qui craint l'embrasement dans la région déjà marquée par la guerre à Gaza. 7h34 sur RMC. Et si on ravivait la flamme olympique allumée ce matin à Olympie, en Grèce, avant d'être transmise par le premier relayeur grec à la nageuse Laure Manoudou, championne olympique du 400 mètres il y a 20 ans. C'était à Athènes, tout un symbole, une flamme protégée comme un joyau, Nicolas Pelletier.
Oui, et dès son allumage ce matin, une bulle de protection sera mise en place par les services grecs. Mais ce dispositif de sécurité va prendre une toute autre ampleur lors de l'arrivée de la flamme le 8 mai à Marseille. 18 policiers et gendarmes formeront en permanence une bulle hermétique autour du porteur de la flamme. Personne ne doit venir perturber le convoi. Ce dispositif renforcé ces derniers jours sera complété par 200 membres des forces de l'ordre. Les premiers pas de la flamme olympique en France seront très scrutés par les autorités. Ils pourraient donner le ton des revendications à venir tenir lors des Jeux de Paris cet été. Plusieurs mouvements contestataires ont déjà prévu des actions pendant les 2 mois de défilé en France.
Il y a du foot ce soir. Le Paris Saint-Germain joue sa place en demi-finale de Ligue des Champions à 21h. Pour ça, il va falloir renverser Barcelone, vainqueur du match aller 3-2. Et c'est peut-être une chance pour Paris. Le Barça joue dans le stade olympique de Louis-Montjouic, car leur mythique Camp Nou est en travaux. Un stade qui ne plaît pas du tout aux supporters, Valentin Jamin.
Un stade plus petit, 50 000 places, moitié moins que le Camp Nou et plus impersonnel car la piste d'athlétisme repousse les tribunes à plusieurs dizaines de mètres du terrain, explique Joan Souroca, auteur d'un livre sur l'enceinte.
Il a été pensé comme un stade multisport, à la base en espérant accueillir les Jeux de 1936, pas pour le foot. La première année, les deux équipes de la ville y ont joué, mais elles n'ont pas aimé. Il y a aussi eu du cyclisme, du rugby et même des cérémonies religieuses.
L'autre club de la ville, l'Espagnol Barcelone, y a évolué de 1990 à 2009. Des finales de coupe ont eu lieu ici, mais l'ambiance est plus froide, les prix élevés, l'accès difficile. Résultat, seuls 17 000 socios s'y sont abonnés. Logique, pense Alex, supporter.
Les gens moins attachés n'y vont pas. Les socios doivent se signaler pour aller au match, puis le club décide de leur place. Ce stade fait vieux, l'acoustique n'est pas bonne et donc l'ambiance est bien moins chaude.
À Paris d'en profiter, car même si le stade olympique sera plein, le Barça est moins poussé qu'au mythique Camp Nou que les Catalans retrouveront en fin d'année.
Soirée spéciale, Barça-PSG sur RMC dès 18h ce soir et le match à suivre en intégralité en direct du stade avec Christophe Dugarry au commentaire. Coup d'envoi à 21h à la télé, ce sera sur RMC Sport 1 et puis l'autre affiche ce soir c'est Borussia Dortmund contre l'Atlético de Madrid.
Et puis le quintet 13h55 sur l'hippodrome d'Auteuil.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC, leur favori aujourd'hui c'est l'As, You For Me, et l'outsider, c'est le 8, Camille Adore.
Remettez-vous.
Oui, voilà, c'est l'émotion, You For Me. Voilà. La course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était donc le journal de Mélisse Dangean. Et en fait, non, je voulais vous dire que pour gagner, il y a évidemment le Quintet, mais il y a surtout RMC, puisque ça y est, nous sommes à J-100 des Jeux Olympiques. Et sur RMC, on vous offre 100 places. On en a gardé 100, et honnêtement, c'est parmi les meilleurs. Cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de table pour jouer. Vous envoyez Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16. Et il y aura un gagnant en direct avec nous à 8h20 tout à l'heure. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et à 7h38, on part tout de suite au 32-16 où nous attend Karine. Karine qui habite à Saint-Germain-sur-Avre dans l'Eure. Bonjour Karine.
Bonjour.
Karine, vous vouliez réagir à ce durcissement promis par le gouvernement à la fois aux jeunes, je devrais dire, mais enfin ça reste quand même des enfants, et surtout aux parents quand leurs enfants sont coupables, comme ça a été le cas pour les émeutes. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne chose, ça, Karine?
Alors oui et non. On va dire que alors je vous explique vite fait ma situation. Je suis veuve. J'ai 2 enfants. Oui. À l'époque, ils avaient 3 et 5 ans.
Oui.
Et j'ai toujours commandé, entre guillemets.
Oui.
C'est-à-dire que c'est moi qui faisais la loi et certainement pas les enfants.
Mm.
J'ai regardé avec qui ils traînaient, j'ai regardé ce qu'ils faisaient et,
Vous étiez très présente. Vous avez assumé le rôle, quoi.
J'ai assumé le rôle entièrement pour 2, si on veut, si, ce que j'ai entendu depuis très longtemps. Mais voilà, j'ai toujours j'ai toujours travaillé, j'ai eu donc les 2 enfants à assumer. Et voilà.
Et vous avez donc du mal, Karine, à entendre quand on dit bon, l'excuse de, en même temps, souvent ils sont avec des mères seules,
voilà.
Donc bon, elles n'arrivent pas à assumer, c'est difficile, etc. Ce que vous voulez dire, c'est que Karine, vous l'avez fait, quoi.
Voilà, je l'ai fait. Et il faut arrêter de dire oh, les pauvres, ils n'ont pas de papa. Les pauvres, les papas n'assument pas ou ne sont pas là. Non, je suis pas d'accord du tout. C'est pas les enfants qui font la loi, c'est les parents.
Et comment vous avez fait, Karine, aussi en termes d'horaire? C'est-à-dire que souvent on dit que c'est maman solo, elle se retrouve parfois avec des horaires de boulot difficiles, devoir tout assumer. Pour vous, c'était la priorité, quoi qu'il arrive, assurer l'éducation?
Voilà, quoi qu'il arrive, c'était ça. S'il y avait besoin, je prenais des heures. Si j'essayais d'être là à la fin, après il y avait la garderie et tout ça.
Bien sûr.
Mais voilà, j'ai toujours été là.
Mais Karine, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il faut sanctionner les parents s'ils ont été défaillants, vous dites oui, il faut les sanctionner, quoi.
Il faut les sanctionner, mais je pense qu'il faut sanctionner surtout l'enfant. Je pense qu'il est capable de comprendre ce qui est bien, ce qui est mal.
Et c'est exactement une des questions que je poserai tout à l'heure à 8h30. Ne manquez pas mon interview, j'aurai à la fois une juge et un maire. Le maire, ce sera le maire de Viry-Châtillon. Et souvenez-vous, juste après la mort de Sam Chidine, il disait exactement ce que vous dites à l'instant, Karine, c'est-à-dire la question de la distinction entre le bien et le mal. Qu'il faut oser et rappeler aux enfants, dès le plus jeune âge, ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, et la distinction entre les deux. Je lui poserai donc cette question-là. Merci, Karine, d'être passée par le 32-16 et d'avoir témoigné aussi, vous, de votre parcours de mère. Chapeau, Karine, 7h41.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on va revenir sur ce coup de rabot sur l'alternance. La prime de 6 000 € pour chaque embauche d'un apprenti va être supprimée dans 15 jours. Et vous êtes en colère, Jean-Luc Duménil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de la CPME. Pour vous, c'est un très mauvais signal envoyé aux petites et moyennes entreprises que vous représentez. Vous nous le dites dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44 sur RMC.
L'invité du jour.
Bonjour Jean-Luc Duménil, merci Bonjour. D'être dans ce studio. Vous représentez les petites et moyennes entreprises. Vous êtes le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et vous venez réagir ce matin à cette décision du gouvernement. Alors, on redit le contexte, le gouvernement dit qu'il faut trouver 10, 20 milliards dès cette année en urgence et plus encore l'an prochain. Et parmi ces milliards à trouver, ils font des économies de ci, de là et notamment la prime offerte aux entreprises qui embauchent un apprenti. Elle va être supprimée le 1er mai. Quelle est votre réaction ?
Alors, c'est pas tout à fait un apprenti. Il y a deux choses. Il y a l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Là, on parle de la prime pour l'embauche en contrat de professionnalisation. Il y en a un, c'est de la formation initiale et l'autre de la formation continue. Mais au-delà de ça, notre réaction, c'est simple, c'est de dire que cet argent, on parle à peu près de 200 millions d'euros par an, on sait exactement où il va et on sait l'utilité qu'il a. On parle à peu près de 100 000 jeunes chaque année en contrat de professionnalisation. Les trois quarts d'entre eux ont un boulot 6 mois après ce contrat.
C'est ce qui paraît assez hallucinant, c'est que là, vous le dites, c'est 200 millions par an. Alors certes, pour trouver les 10 milliards,
il faut faire des économies.
Mais l'une des pistes envisagées par le gouvernement, c'est notamment de durcir, soi-disant, les allocations chômage pour renforcer l'embauche. Vous dites, ça, c'est pour le coup des sous qui sont hyper efficaces dans l'embauche.
Et c'est-à-dire que quand on parle effectivement du retour au plein emploi, c'est la volonté affichée par le gouvernement, tout ce qui est alternance, c'est le meilleur moyen d'accéder à l'emploi. Pour un jeune, c'est formidable, puisque vous rentrez dans une entreprise, vous découvrez un métier que vous aimez par la suite, et pour l'entreprise, vous avez quelqu'un qui est formé, qui est motivé, et pour la collectivité, c'est autant de gens qui auront un boulot derrière, et ça permettra de créer de la richesse et de l'emploi.
C'est un mauvais signal à la fois pour les entreprises et pour les jeunes.
Mais bien sûr, il y avait d'autres moyens, il y a toujours d'autres moyens de faire des économies. Et
vous seriez prêt à renoncer à des trucs ? C'est-à-dire, quand vous dites il y a d'autres moyens, mettez la main à la pâte. Est-ce qu'il y a d'autres aides qui sont données aux entreprises dont vous dites, finalement, elles ne sont pas si efficaces que ça, allez, on peut y renoncer ?
Oui, alors certainement, mais ça faudrait qu'on fasse la liste.
Oui, alors c'est toujours plus difficile quand je vous demande en général. Oui, dans l'absolu, il y en a sûrement.
Mais ce que je peux vous donner quand même, en 2023, 60 000 personnes supplémentaires sont venues gonfler les effectifs de la fonction publique en 2023. Donc si on veut faire des économies rapidement, on verra l'impact budgétaire. Peut-être qu'on peut limiter l'augmentation des effectifs de la fonction publique.
Je recevais d'ailleurs la semaine dernière à ce même micro le patron du MEDEF, M. Martin, qui disait exactement comme vous, qui disait quand même, c'est un peu abusé, qu'ils montrent l'exemple, puisqu'il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires. Ils ont embauché 60 000 fonctionnaires, comme vous le dites. Et ils nous demandent à nous, les entreprises qui créons des emplois, de raboter sur les aides.
Oui, mais encore une fois, là, cette dépense, on sait exactement où va l'argent. Elle est directement fléchée. Donc, c'est franchement, on comprend pas ça.
Victor Joannin.
Il y avait quand même des critiques sur ces dispositifs, d'éventuels effets d'aubaine, parce que c'est des primes qui concernent des publics qui n'en ont pas forcément besoin. Plutôt que ce coup de rabot brutal, est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage de resserrer le dispositif à destination des publics qui ont plus de mal à trouver un emploi ?
Alors, ce qu'on fait, c'est que c'est utile. Peut-être qu'effectivement, on aurait pu regarder autrement plutôt simplement qu'un coup de rabot. Mais Quand on a une dépense, qu'on est capable de juger, de regarder le résultat, bah franchement, avant de la supprimer, on fait au moins une étude d'impact pour regarder les conséquences. Là, quasiment du jour au lendemain, oui. On nous dit ça va être supprimé.
À partir du 1er mai, oui.
C'est là où c'est complètement aberrant, si vous voulez. Et par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que du côté des entreprises, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'embauches en contrat de professionnalisation. Une boîte, elle ne recrutait pas pour la prime. Simplement, ça lui coûtait moins cher d'embaucher en raison de cette prime. Et évidemment, les plus impactés, ça va être les plus petites entreprises qui diminueront les embauches en contrat de pro. C'est une équation perdant-perdant.
Jean-Eudes Duménil, on parle ce matin rémunération des patrons, enfin d'un patron en particulier, puisque c'est Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui va sans doute obtenir le feu vert, d'ailleurs qu'il l'obtienne ou pas, aujourd'hui il l'obtiendra. Il aura cette rémunération de 36,5 millions d'euros, je vois vos yeux qui s'écarquillent, Jean-Yves Duménil. C'est pas très représentatif des patrons de France.
Non, alors après qu'on ait des grands champions internationaux en France, tant mieux, mais on est sur une autre planète. Hein. Moi, je vous rappelle simplement, on fait des enquêtes sur la rémunération des chefs d'entreprise de PME. 75% d'entre eux gagnent moins de 4 000 euros et 20% dans notre dernière enquête, on a été même surpris par ce chiffre, sont en dessous du SMIC. Donc, vous voyez, tout simplement, on n'est pas sur la même planète. Voilà. Donc, on regarde ça à la télévision et c'est vrai que ce sont des montants absolument astronomiques.
Trop.
Maintenant, c'est une entreprise privée, ce sont les actionnaires qui décident, la responsabilité, elle leur appartient.
Et c'est une entreprise florissante, hein, vous le disiez tout à l'heure, Victor.
19 milliards d'euros de bénéfices.
Et qu'il a effectivement relevé. Merci Jean-Yves Duménil d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes donc le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il est 7h49.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, expliquez-nous, Laurent Neumann.
Oui, le conflit au Proche-Orient, le litre d'essence à 2 euros, c'est pour quand? Demain, après-demain?
À tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles, le chanteur soprano annonce son grand retour.
Oui, c'est officiel. Trois ans après l'immense succès de son dernier album Chasseur d'étoiles et la tournée des stades qui a suivi, eh bien Soprano annonce enfin son retour en musique. Il l'a fait sur YouTube avec une vidéo qui montre les coulisses de l'enregistrement. C'est assez inédit, hein, 20 minutes en studio à Abidjan avec ses musiciens. Alors on n'entend pas les titres de ce nouveau disque, mais la manière dont Soprano crée ses chansons.
On trouve une sorte de ligne mélodique sur le truc, et là on va peut-être trouver la magie qui va nous amener cette ligne. Voilà. Et le titre de la chanson s'appellerait peut-être Freedom. Dans l'intention, c'est un morceau pour dire qu'ensemble on va être libre, on va se libérer de plein de choses.
Et d'ailleurs, c'est confirmé, au-delà de cette chanson, Freedom sera carrément le titre de l'album. On a une date de sortie, ce sera le 21 juin prochain. Mais avant cela, on retrouvera Soprano dès le 8 mai pour un concert exceptionnel sur le Vieux-Port à l'occasion de l'arrivée en France de la flamme olympique. Bref, un printemps très chargé pour Soprano.
Allô, allô, y a-t-il quelqu'un au bout du fil pour me répondre? Allô, allô, je fais le 36-15 bonheur.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, expliquez-nous.
Expliquez-nous.
Expliquez-nous, Laurent Neumann, on revient avec vous sur les conséquences possibles de l'attaque iranienne contre Israël ce week-end. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'en est inquiété hier. Pour lui, une dégradation, je cite, une dégradation supplémentaire au Proche ou au Moyen-Orient aurait un impact économique lourd. Ça veut dire quoi, Laurent?
On va aller droit au but, ça veut dire concrètement que s'il y a escalade guerrière au Proche-Orient entre Israël et l'Iran, le litre d'essence pourrait concrètement très, très vite passer les 2 euros, alors que le samplon 95 en ce moment est aux alentours de 1,91, 1,92 en moyenne. L'explication, elle est extrêmement simple. L'Iran, qui est membre de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, détient, figurez-vous, la troisième réserve mondiale de pétrole. Téhéran, c'est 4 millions de barils par jour. Et l'Iran détient par ailleurs la deuxième réserve mondiale de gaz. Autrement dit, toute attaque israélienne contre des installations de production ou d'exportation de pétrole ferait s'envoler les cours. Et l'autre inquiétude, qui n'est pas la moindre, serait la fermeture du détroit d'Ormuz entre l'Iran Iran et Oman. C'est là où transite chaque jour 1/5 de la production mondiale de pétrole et 1/4 de la production mondiale de gaz. Alors pour le moment, évidemment, on n'en est pas là. Les marchés avaient anticipé dans leur prix la riposte iranienne, contrairement d'ailleurs à la frappe israélienne sur le consulat iranien à Damas le 1er avril, qui, elle, n'avait pas été anticipée par les marchés, qui du coup avait fait bondir les prix de 5%.
Et cette fois-ci, le gouvernement n'a plus du tout l'intention de faire des chèques ou de pratiquer le quoi qu'il en coûte, hein.
Oui, parce que le gouvernement, tout le monde le sait, cherche 20 milliards d'euros d'économies et on se dit que dans cette séquence-là, bah, il ne va pas en plus charger la barque des déficits en nous aidant à faire le plein. Sauf que le 14 décembre dernier, Apolline, vous en souvenez à votre micro, Bruno Le Maire avait dit, je cite, « Si les prix du carburant explosent, nous activerons non plus un chèque, mais une indemnité carburant élargie à plus de travailleurs. » Et vous lui aviez demandé d'ailleurs, mais à partir de quel seuil? Et vous,
oh, j'avais fait une excellente interview.
Excellente.
Oui. Oh là là.
Et il avait répondu, 1,95€, ça me paraît un seuil raisonnable.
On
est, on y est presque. Début avril, le prix du baril de pétrole a déjà franchi la barre des 90 dollars en l'occurrence, une hausse de 16% par rapport au début de l'année. C'était avant les missiles iraniens sur Israël. Or, hier, une note de la banque américaine Morgan Stanley a revu toutes les prévisions à la hausse et parle, en cas d'embrasement au Proche-Orient, d'un baril possiblement à plus de 100 dollars d'ici quelques mois.
Comment on fait pour éviter le scénario catastrophe?
Il n'y a qu'une solution, c'est la diplomatie. Les Iraniens ont déclaré que militairement la mission était accomplie, donc ils n'avaient pas l'intention d'aller plus loin. Les pays amis d'Israël, je pense à la France ou à la Grande-Bretagne, tentent de calmer le jeu. Quant à Joe Biden, lui, à quoi pense-t-il? Il pense d'abord à sa réélection et du coup il fait pression pour qu'Israël ne déclenche pas une guerre plus large avec l'Iran, notamment parce que l'économie américaine, pour elle, la question du prix du carburant est un élément essentiel. Ce qu'on comprend en revanche, c'est qu'il y aura bien une riposte israélienne, mais quand, de quelle ampleur, sur l'Iran, sur le Hezbollah au sud du Liban, la décision appartient clairement au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et à son cabinet de guerre, dont tout le monde aura compris que les membres ne sont pas d'accord entre eux.
Merci Laurent pour ces explications. Il est 7h56. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal à la une du journal de 8h. La flamme olympique qui sera allumée en Grèce ce matin. On sera sur place.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.